Et donc, nous sommes aujourd'hui toujours dans le thème de Noël, et je vais reprendre le texte qu'on a lu, mais pour dire des choses différentes, espérons, que vendredi, avec Matthieu 1, 18. Mais seulement, je vais relire simplement 18 à 25. On avait fait tout le chapitre, on avait lu tout le chapitre. Et on avait insisté sur le nom de Jésus, sur le mot Emmanuel. Là, on insistera, mais d'une façon un peu différente. Matthieu 1, donc on est en Matthieu cette année, 18 à 25. On poursuivra Matthieu 2, Dieu voulant, la fois prochaine. On lira quand même le verset 1. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant sera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, l'Éternel sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète Ésaïe. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme chez lui, mais ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Merci pour ta parole qui éclaire notre vie. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons retourner à l'essentiel. On pourra appeler cette méditation Noël l'essentiel. Alors nous aimerions faire quelque chose de spécifiquement chrétien. Nous voulons penser à l'essentiel pour ce Noël. On pense à tellement de choses qui tournent autour de Noël, de façon directe ou indirecte, mais qui ne sont pas l'essentiel. Alors on va demander aux anges de s'écarter. On va même demander aux mages de se pousser un peu. Et nous voulons nous pencher sur le berceau et nous demander quel est ce bébé, qui est plutôt ce bébé. Alors déjà dans la prophétie d'Ésaïe, la naissance miraculeuse est présentée comme un signe. Alors un signe de quoi? Eh bien ce matin, nous voulons dire que c'est un signe de la double nature de Jésus-Christ. Il est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Alors tout d'abord, Jésus est vrai homme. C'est un petit garçon qui est né à Bethléem, un petit garçon qui ressemblera sans doute à sa lignée humaine, de type méditerranéen. Peut-être dans le métro, quelques personnes auraient des craintes. Et de conditions modestes, un vrai bébé qui pleure. Un bébé qui a besoin qu'on le nourrisse, un bébé qui a besoin qu'on le change, qu'on le protège, un bébé qui a besoin qu'on le prenne, qu'on le prenne dans ses bras, mais qu'on lui apprenne des choses. Un petit humain à ses débuts. Ah, ça nous paraît évident. Pourtant, la piété chrétienne a souvent oublié l'humanité de Jésus. Il y avait un très bon livre qui est paru il y a une trentaine d'années, qui parlait de l'humanité de Cameron, l'humanité de Jésus. Et c'est vrai que dans nos milieux aussi, parfois, on l'a oublié. Et alors, on n'est pas allé jusqu'à représenter la crèche Nimbédor, on n'est pas allé jusqu'à présenter Jésus tenant la terre dans une main et vous bénissant de l'autre. On voit à quelle tradition je fais référence. Mais on n'est pas loin, des fois, d'oublier l'humanité de Jésus. Dans certaines traditions, Jésus n'aurait jamais ri. Il aurait traversé l'enfance, l'adolescence et la vie adulte sur un tapis roulant, sur un coussin d'air, sans jamais être atteint par rien. Il serait tellement différent de nous à cet égard. Et c'est faux. La Bible enseigne qu'il est devenu un homme, comme nous, parmi les hommes, au point même d'être passé inaperçu par certains, et il a été tenté à tous égards, mais n'a jamais péché, c'est vrai. Mais nos souffrances, nos luttes, il les a toutes connues, toutes. Et même le péché, il l'a connu quand il a porté nos péchés en son corps sur la croix. Donc Jésus est comme nous. Il a une mère qui l'a porté 9 mois, il a des ancêtres. Leurs noms nous sont donnés dans la Bible. Il y a des gens bien, il y a des gens qui sont des monstres parmi ses ancêtres. Des gens pas bien du tout, des géants de la foi, mais comme quelques monstres. J'imagine que nos généalogies, il y en a qui font des recherches, mais c'est pas toujours intéressant de savoir quels étaient nos ancêtres. Il y a des mauvaises surprises aussi. Et puis, donc, cette généalogie démontre que Jésus est bien le fils de David, le fils d'Abraham, le fils de David, et vers lequel convergent toutes les prophéties. Alors, elle montre aussi que cette généalogie, l'intérêt que Dieu porte aux exclus, comme Ruth, la Moabite, dont nous avons parlé il y a quelques prédications. Elle montre aussi comment Dieu peut intégrer dans son plan des pécheurs, comme Judas et Tamar, comme David et Bathsheba, comme Yéconia aussi, au moment de la déportation. Jésus n'est pas, mais Jésus n'est pas conditionné par ses ancêtres. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour nous, il est libre. Mais on peut dire qu'il fait partie d'une famille, que cette famille fait partie d'un peuple et que Jésus en est solidaire. Ah, ça paraît très ordinaire, très humain. Et puis la seconde chose qu'on peut mettre en valeur, c'est qu'il est né d'une vierge. Donc, regardons son berceau, posons-nous la question de son père. Alors Joseph, c'est vrai, l'a reconnu plutôt comme son enfant. C'est par lui que Jésus est l'héritier, entre autres, du vieux trône, de l'ancien trône de David. Mais Joseph n'a pas eu de rapport avec Marie avant la naissance de l'enfant, et Marie était vierge au moment de sa conception. Alors c'était conforme à la vieille prophétie d'Ésaïe, qu'on a citée, conforme à ce qu'un ange a annoncé à Marie, puis à Joseph. Donc cet enfant n'a pas de père humain, il a été conçu dans le sein de Marie par un miracle divin. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, est-il dit. Et puis il est vrai, donc vrai homme, né d'une vierge et vrai Dieu. Qui c'est ce bébé? Eh bien le prophète Ésaïe dit qu'il est un signe est expliqué dans son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Et on peut prendre cela de deux façons. Alors, vendredi soir, on l'a pris de la première façon, on a dit que c'est le signe que Dieu est avec nous, qu'il est pour nous, qu'il est de notre côté. On l'a dit vendredi soir. Et c'était important pour ceux qui ont reçu cette parole au temps d'Ésaïe la première fois, et au temps de Jésus, bien sûr. C'est déjà pas mal, logiquement. Dieu devrait être contre nous parce qu'on a démérité à tous égards à cause de notre péché, de notre révolte. Mais non, il est pour nous. Bon, déjà une bonne nouvelle. Mais on peut le prendre aussi d'une autre façon. Emmanuel veut dire aussi que la naissance de l'enfant, de la Vierge, signifie que Dieu est parmi nous, qu'il est venu parmi nous, qu'il a habité parmi nous, que Dieu lui-même est venu habiter parmi nous, que Dieu s'est incarné. Donc littéralement, il est parmi nous, avec nous dans ce sens-là. On l'appellera, dit-il, est-il dit, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, dit l'ange à Marie. Donc voilà pourquoi les bergers se sont prosternés. Voilà pourquoi les mages l'ont adoré. L'évangile de Jean dit les choses très clairement. Au commencement était celui qui est la parole, il était au commencement avec Dieu, il était Dieu. Il est devenu un homme et nous avons contemplé sa gloire. Et donc en devenant un homme, il n'a pas abandonné sa divinité, il a ajouté son humanité à sa divinité. Et nous le chantons avec ce cantique qu'on va chanter tout à l'heure, au mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis. C'est aussi un beau cantique plus récent. Alors c'est dur à comprendre, et c'est vrai que c'est bien de dire mystère de Jésus-Christ. Homme et Dieu réunis. Il y a une part de mystère qui reste. Ça dépasse nos intelligences bornées et pécheresses. C'est tellement dur, c'était tellement dur à comprendre que dans les premiers siècles, il y avait pas mal de gens pour dire qu'il n'était pas un vrai homme. Et il y a eu toutes sortes d'hérésies qu'on voit dans les bouquins de théologie. où on voit toutes sortes de gens qui disent qu'il n'était pas vraiment un homme. Il n'en avait que l'apparence. Et du coup, il n'aurait connu aucune limitation. Il n'aurait jamais souffert. Il ne serait pas vraiment mort non plus. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont tiré de l'autre côté et qui ont dit « il n'est pas vraiment Dieu ». Il ressemblait à Dieu, sans plus. Il était un être créé comme les autres, assez ressemblant, parmi les êtres créés, un grand ange. Voilà. Donc c'est tellement fort de rassembler les deux, vrai homme et vrai Dieu, qu'on a toujours tiré d'un côté ou d'un autre pour vider l'autre sens de son contenu. Et donc, au IVe siècle, à Alexandrie, les gens se battaient dans les rues à ce sujet. Il y avait le camp de ceux qui croyaient en la divinité du Christ et le camp de ceux qui n'y croyaient pas. Il y avait même des émeutes, comme à la sortie des stades de football. Heureusement qu'il n'y a plus d'émeutes dans les rues de ce genre. Mais le problème est toujours là. Il y a toujours une bagarre entre ceux qui croient en la divinité du Christ, et nous en sommes, et ceux qui n'y croient pas. Et c'est là-dessus, bien sûr, que les témoins de Jéhovah, que les musulmans, sont le plus remontés contre nous. Alors, qui c'est cet enfant dans le berceau? Est-ce que c'est un genre d'ange qui s'est fait homme? Ou alors c'est Dieu qui s'est fait homme, comme le disent les Écritures? Est-ce que c'est un être qui ressemble à Dieu? Ou est-ce que c'est vraiment Dieu? La différence est énorme, sur le plan du sens, bien sûr. D'abord. Et l'apôtre Paul dit à ce sujet, je cite que ce verset, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » En lui habite corporellement toute la plénitude, Colossiens, donc, toute la plénitude de la divinité. Tout Dieu, imaginez ça, tout Dieu, pour nous Dieu, avec les études bibliques, les prédications, on connaît un peu mieux la puissance, l'énormité, la personne étonnante de Dieu. Tout Dieu est dans ce berceau. Tout Dieu est là 30 ans plus tard, lorsque dans la chambre haute, après la résurrection, l'apôtre Thomas va s'écrier « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et il a raison. Alors c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est ce que la Bible enseigne. Alors, mais qu'est-ce que ça change? Ça, on a dit que la différence est énorme sur le plan du sens, mais qu'est-ce que ça change sur le plan de la pratique? On est tenté de dire que ça pourrait être de la théorie. Pour certains, c'est de la théorie. On pourrait tenter de dire que c'est bon pour avoir des arguments dans une discussion avec des gens qui pensent différemment, un voisin, un collègue de travail. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça changerait pas? Est-ce que ça changerait pas mal de choses si Jésus-Christ n'était pas vraiment Dieu, égal au Père et à l'Esprit Saint? Est-ce que ça changerait d'abord notre façon de lui rendre un culte et de prier? Première chose qu'on veut voir. Et c'est vrai qu'on n'a pas prié encore ce matin, on va se rattraper à la Sainte Cène, mais les prières que nous prononçons lors d'un culte, spontanément comme ça, eh bien, sont souvent tournées vers le Seigneur Jésus, bien sûr. C'est inadmissible, ça serait inadmissible si Jésus n'était qu'un simple homme ou s'il n'était qu'un ange puissant. Mais, au contraire, si toute la plénitude de la divinité habite en lui, comme le dit la Bible, alors c'est normal, c'est tout à fait normal de prier et d'adorer le Seigneur Jésus. Lui-même a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, moi et le Père, nous sommes un. Et il a évoqué le jour où tous honoreraient le Fils comme ils honorent le Père. C'est énorme, ça. Et c'est exactement ce que font les chrétiens quand ils adorent Jésus, le Seigneur Jésus. Alors, si on écoute les chants de Noël qu'on a chantés, on a chanté des chants de Noël déjà depuis plusieurs semaines, on a essayé de ne pas chanter les mêmes. Et si on écoute nos chants de Noël, ils nous invitent à adorer Jésus. Et pourquoi? Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Il est le rayonnement de sa gloire. Il est sa parole. Il est son empreinte. Il est son fils. Alors il est son fils, non pas comme son office à nous, mais il est l'expression visible, la manifestation audible du Père quand il tourne sa face vers nous. C'est grâce à Jésus que nous connaissons Dieu, que Dieu se fait connaître. Alors, Dieu s'est fait connaître un peu par la création, c'est vrai, hein. Mais cette révélation dans la création est incomplète et nous n'arrivons pas bien à capter. Il y a eu des moments où Dieu s'est fait connaître dans l'histoire d'Israël, surtout dans ses grandes délivrances. Et il a parlé par les prophètes, c'est vrai. Mais on est bien d'accord. Si on n'avait que ça, on n'irait pas loin. La révélation la plus complète, la révélation la plus forte, la révélation la plus belle, c'est en Jésus-Christ, comme dit Hébreux 1. Dans sa vie, dans sa mort, il a pleinement accompli la volonté de Dieu. Il a pleinement, dans sa vie et sa mort, exprimé la pensée de Dieu. Et il a incarné pleinement l'immensité de l'amour de Dieu. Alors, si Dieu nous paraît, pratiquement, qu'est-ce que ça change encore ? Mais si Dieu nous paraît lointain, il y a des jours où Dieu nous paraît lointain, s'il nous paraît abstrait ou incompréhensible, regardez à Jésus. Regardez à Jésus-Christ, par sa parole, par les chants qu'on peut chanter. Il est venu pour révéler le Père. Et vous ne serez pas long à trouver que Dieu n'est plus si abstrait ni si lointain. Si vous pensez que Dieu tolère tout, qu'il passe tout, qu'il nous passe tout, regardez la sévérité de Jésus-Christ. Si vous pensez que vous êtes trop bas pour que Dieu vous aime, regardez Jésus qui tend la main et qui touche le lépreux, qui relève la prostituée. Il est l'image du Dieu, il est l'image visible du Dieu invisible dans tous ses aspects. Grâce à lui, nous savons qui est Dieu, nous avons l'image de Dieu. Alors, mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis. C'est vrai. Mais il est vrai homme, il est vrai Dieu. Il a mis de côté pour un temps certains attributs de sa divinité pendant sa vie, pendant son ministère. Il a vécu parmi nous, il est mort parmi nous et il est mort pour nous. Et puis, dernier aspect très court, quelle aurait été la valeur de la croix si Jésus n'était pas vraiment Dieu et vraiment homme ? Il est appelé le seul médiateur entre Dieu et les hommes, en 1 Timothée 2,5. Il fallait donc qu'il présente bien, pour être médiateur, il faut présenter les deux parties, la partie Dieu et la partie homme. Et c'était lui, le merveilleux médiateur dont nous avions besoin. Il fallait un homme parfait. Jusque-là, on suit. Il fallait un homme parfait pour subir le châtiment du péché. Un homme pécheur ne pouvait pas mourir à la place des pécheurs. Il fallait un homme parfait pour subir le châtiment du péché à la place des coupables. D'accord. Et le seul médiateur adéquat entre Dieu et l'homme, c'était un homme. Donc c'est l'homme Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5, je l'ai dit. Mais d'autre part, si le Rédempteur n'avait été qu'un homme, même parfait, on se demande comment, il n'aurait pu se substituer qu'à un seul homme. Un seul homme pouvait se substituer à un seul homme. Un homme parfait pouvait se substituer à un homme pécheur. D'accord. Et donc le Fils de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle, eh bien étant vrai homme et vrai Dieu, a une valeur qui excède de beaucoup tous les hommes réunis. Si on met tous les hommes réunis, passé, présent, avenir, toutes les générations, tous les pays du monde, sans exception, et si on met de l'autre côté Jésus-Christ, mais Jésus-Christ est plus lourd dans la balance, beaucoup plus lourd dans la balance que tous les hommes. Et le Fils éternel a une valeur qui excède de beaucoup tous les humains réunis. Sa vie est une rançon suffisante pour les impies de toutes les générations successives. Et Pierre nous parle de l'agneau sans défaut et sans tache. C'est bien. Mais il est si précieux qu'il peut nettoyer les souillures d'une multitude innombrable. Et dans l'Apocalypse, Apocalypse 7, vous relirez chez vous, 9 à 14, l'apôtre Jean voit une multitude innombrable qui loue Dieu parce qu'ils ont été rachetés par le sang précieux de l'agneau. Donc pour notre salut, il fallait que Dieu se fasse homme. Notre salut dépend de cela. Dieu le Père manifeste son amour pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous selon les prophéties. Alors concluons, hein. C'est Noël, c'est le moment de penser à l'essentiel, que nous puissions penser à l'essentiel, hein, pendant ce temps de Noël. Un sauveur est né dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur, car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen.